À qui s'adresse véritablement cette encyclique? Quel est le message que Benoît XVI a voulu transmettre à travers cette nouvelle encyclique consacrée à l'espérance chrétienne?
C'est une encyclique adressée d'abord à l'Église catholique. Le titre le dit. Vous avez prêtre, diacre, et consacré et laïc. Donc c'est au peuple catholique qu'elle est adressée. Je pense qu'on doit lire cette encyclique dans le prolongement de la première sur la charité. Et le pape veut recentrer la vie chrétienne sur l'essentiel qui est la vie des vertus théologales, foi, espérance et charité. La foi, elle est très présente, comme a dit le cardinal Vanois, dans la manière même dont on parle, à la suite de saint Paul, de l'espérance. Donc je crois que peut-être certains se demandent s'il y aura une troisième encyclique sur la foi, mais déjà dans la seconde, il est question aussi de la foi à travers l'espérance. Alors je crois que c'est le centre de la vie chrétienne, c'est la vie des vertus théologales.
Dans ce texte, le pape appelle les chrétiens à réfléchir au sens profond de l'espérance et à faire en quelque sorte un retour aux racines. C'est en quelque sorte un appel à se mobiliser.
Je ne dirais pas le mot mobilisation, mais c'est un appel à l'approfondissement. Je me rappelle des belles pages de Peggy sur l'espérance. Peggy déjà remarquait à son époque que dans les trois vertus théologales, il y avait la petite fille, comme il l'appelait Espérance, qui était toujours oubliée. Et dans le fond, la conscience que l'on a de l'importance de l'espérance dans notre vie, espérance de la vie éternelle, comme dit saint Augustin, et à la suite de l'Écriture, c'est quelque chose qui... Est-ce que ça joue le rôle que ça doit jouer dans notre vie? Je crois que c'est là le problème. Est-ce que nous sommes des êtres d'espérance? Le Nouveau Testament parle de l'espérance, et l'espérance est liée aussi au témoignage, et c'est pourquoi dans l'encyclique il est beaucoup question des martyrs, et il est lié aussi à la joie chez saint Paul. La joie de l'espérance, parce que c'est déjà la certitude que les promesses, qui sont des promesses de Dieu, seront réalisées, et commencent à être réalisées dans la vie chrétienne aujourd'hui.
Le pape s'arrête sur le progrès en définissant les limites.
Il s'arrête sur le progrès, et avant de s'arrêter sur le progrès, je dirais, il s'arrête sur ce qui a été une grande idéologie du progrès, ou un grand mythe du progrès, depuis les grandes découvertes scientifiques, depuis le XVIe siècle, disons. Mais c'est une idéologie qui n'a fait que croître. Je dirais jusqu'à notre génération. Peut-être qu'elle a vraiment été ébranlée, cette idéologie, au moment de la bombe atomique. La première bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, c'est des dates qui ont une incidence culturelle extrêmement profonde. Parce qu'on s'est rendu compte que la confiance aveugle mise dans la science et dans la technique était fausse. Parce que il y a dans la science, dans la technique, qui en eux-mêmes sont des biens, il y a une grande ambiguïté, parce que l'usage que l'on en fait peut être pour le bien ou pour le mal. Alors le pape insiste beaucoup que le vrai progrès est progrès pour le bien, et que le progrès scientifique comme tel ne nous conduit pas nécessairement au bien, et qu'il a besoin d'être réglé par l'éthique, par la morale, par les règles de la morale, par les commandements. Et donc aussi par la vision, par la rencontre avec Dieu, parce que la morale chrétienne n'est qu'une expression de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu qui se communique à nous.
Il y a également une profonde réflexion sur deux étapes qu'il juge essentielles, la Révolution française et la Révolution prolétarienne. Pourquoi avoir choisi ces deux moments déterminants?
Alors, il a choisi deux moments parce que dans la conception de l'idéologie du progrès continu, est quasi nécessaire de l'humanité, où on chargeait les progrès de la science comme tel d'être porteurs, les progrès porteurs d'un progrès de l'humanité comme tel. Beaucoup ont pensé que ces progrès étaient progrès de la raison et de la liberté. Or, ces deux révolutions se sont faites au nom de la raison et de la liberté. Et quand Marx, qui est beaucoup cité, réfléchit à la Révolution française, il voit dans la Révolution française une première étape de la pleine libération de l'homme. Alors, en même temps qu'il y a cette affirmation, cette reconnaissance, je dirais, de l'importance idéologique de la Révolution française et de la Révolution soviétique. Il y a aussi la critique, d'ailleurs une critique que nous pouvons vérifier, parce que nous constatons l'échec, non pas dans la Révolution française qui a évolué, et qui a donné quand même des fruits d'humanisme comme les droits de l'homme, ce qu'on ne peut pas dire de la Révolution soviétique. Il y a eu une erreur de fond. Et l'erreur de fond, selon l'analyse du pape, c'est que Marx, dit-il, sa grande erreur était le matérialisme, c'est de croire que les structures comme telles sociales pouvaient rendre l'homme heureux, alors que finalement, on lui a renvoyé à la raison prise sur toute son amplitude, c'est une raison qui n'est pas fermée aux lumières de Dieu, et à la liberté aussi. Mais la liberté est une chose qui est, comme il dit, sans cesse nouvelle, parce que le fait que je pose aujourd'hui un acte libre n'est pas garant que je serai libre dans mes actes par la suite. Donc elle est, je dirais, chaque jour à inventer. Et d'autre part, la liberté n'est jamais uniquement ma liberté, mais elle est notre liberté. Il dit, il n'y a pas de liberté humaine sans la liberté des autres. C'est pourquoi il dira des choses très fortes. Par exemple, les structures sociales, d'une certaine manière, doivent être constamment réinventées à chaque génération. Donc l'idée qu'une fois pour toutes, on aura le règne de l'homme sur la terre, c'est une grande illusion.
Il insiste beaucoup également sur cette espérance qui ne doit pas être individualiste.
Beaucoup. Il le dit parce qu'on a reproché au christianisme d'avoir une vision individualiste de l'espérance, qui est contraire puisque Dieu réunit son peuple et que la loi de son peuple, c'est la charité, donc l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est cette critique qui a été faite. Mais aussi, il remarque que devant les progrès scientifiques, la présence des chrétiens et techniques n'a pas été ce qu'elle devait être et qu'il y a eu une tendance dans certains milieux chrétiens, il dit le christianisme moderne, de faire de l'espérance avant tout une chose individuelle ou personnelle, si vous voulez, qu'elle est aussi. Mais la personne telle que la veut Dieu, c'est la personne qui est ouverte par l'amour au prochain et aux besoins du prochain.
Il y a dans cette encyclique un appel à une autocritique du christianisme moderne. À quoi fait-il référence?
Il fait référence à un certain repli des chrétiens sur eux-mêmes et à un manque d'engagement dans certains domaines où se joue l'avenir du monde. Parce que tout en insistant sur la dimension transcendante de l'espérance, il met que l'espérance authentique, la grande espérance, comme il dit, a aussi des incidences sur les choses humaines, disons les choses temporelles, les choses de la cité. Et là, la présence des chrétiens est requise.
C'est une encyclique très complexe, articulée. Comment le cœur des baptisés peut-il être touché par un message? Est-ce qu'il va pouvoir être relayé?
Il doit être relayé, parce que tout ce que dit le pape, c'est un commentaire, je dirais, aidé par les pères de l'Église, d'un commentaire de l'Écriture. Donc tout ce qu'il dit se trouve notamment dans saint Paul. L'épître aux Hébreux tient une grande place dans cette encyclique. Alors je crois que aller vers nos sources, qui sont les sources de l'Écriture, et également les sources sacramentelles, parce qu'il insiste bien sur le fait pour que la présence de Dieu comme soutien de l'espérance, comme objet de l'espérance, ne doit pas être une présence abstraite d'un Dieu uniquement connu, mais c'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Et Dieu vient à notre rencontre dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se communique à nous dans son Église et notamment dans les sacrements de l'Église.
Ce texte est avant tout un appel à la réflexion, un appel au dialogue ou un message d'espoir?
C'est tous les trois à la fois, je dirais. Réflexion, si, parce qu'elle doit être méditée. Et nous entrons samedi dans le temps de l'Avent. Et l'Avent, c'est le temps de l'attente, de l'espérance. Et ça peut être une bonne occasion de la méditer. C'est aussi, il parle des lieux de l'espérance, et le premier lieu qu'il indique, c'est précisément la prière. Donc elle doit être priée, et elle est aussi une incitation à la vie de prière, à la vie sacramentelle.
Il y a également un paragraphe très important sur le jugement, symbole d'espérance, puisqu'il éliminera le mal.
Alors, c'est au moment du jugement dernier que le mal sera définitivement et que prendra fin l'histoire. pour que notre vie soit la vie, la participation directe à la vie éternelle, à la vie de Dieu. Et ça sera aussi un jugement, parce que Dieu est juge. Dieu est juste, je veux dire. C'est une attestation de l'amour de Dieu d'abord, mais c'est ce Dieu qui nous aime est aussi un Dieu juste. Donc on ne peut pas faire que l'amour soit conçu comme un lieu ou un état dans lequel on effacerait, on gommerait le mal comme s'il n'avait jamais existé. Donc c'est donc aussi un rappel à la responsabilité morale de chacun quant à la conduite de sa vie et quant à sa relation avec le prochain.
Et enfin, une demande un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette encyclique ?
Je crois que c'est le thème même, le fait qu'il ait choisi et rappelé cela. Et je trouve aussi la profondeur de la méditation et cette volonté, cette intention qu'a le pape de toujours montrer que le message chrétien n'est pas un message, je dirais, détaché des choses de ce monde, mais qu'au contraire, il a une incidence quasi intérieure au devenir de l'histoire, même s'il est transhistorique, s'il va au-delà.